festival de Cabaret Vert, ça se passe à Charleville-Mézières du 21 au 24 août. Pour en parler, on est par téléphone avec Julien Sauvage. Vous êtes le directeur, c'est ça, du Cabaret Vert?
Oui, tout à fait, ouais.
Alors, comment c'est né d'abord ce festival dans les Ardennes?
C'est ça, bah, il est né en fait deux fois, on va dire ça comme ça. Une première fois, un groupe de musique dans le cadre d'une formation, enregistrement. On nous a conseillé de nous monter en association pour pouvoir exister d'un point de vue légal, entre guillemets. On était quelques-uns à l'époque à avoir envie d'organiser nos propres concerts aussi, parce que bah, effectivement, dans le coin, il n'y a pas non plus énormément de possibilités de jouer. Et puis, l'association s'est créée comme n'importe quelle association, avec un trésorier à l'époque qui n'a jamais vu le banquier, un secrétaire qui n'a jamais tapé de courrier. Et puis un jour, on a eu notre premier projet qui nous a été proposé par une autre association locale, à laquelle pour un événement auquel on a participé. Ça s'est excellemment bien passé. Et il y a pas mal de gens autour de nous, dans les bénévoles de cet événement-là, qui ont voulu intégrer l'association. Et c'est à partir de là qu'il y a vraiment l'association telle qu'on la connaît aujourd'hui est vraiment née. C'est-à-dire que des gens du groupe de musique de l'origine, il n'y a plus que moi, et tous les autres sont ceux qui sont arrivés 6 mois, 1 an après, quoi.
Ouais, alors donc vraiment au départ une asso locale de développement musical, et puis maintenant quand même un des plus gros festivals au niveau national, quoi, de musique.
Ouais, c'est ça, en fait c'est un peu cette deuxième naissance, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec pas mal de jeunes à avoir fait un peu des études. Dans les Ardennes, on n'a pas de pôle universitaire à proprement parler, hein. On a quelques BTS, quelques IUT, quelques formations post-bac, mais très très peu, et je crois qu'il y a 1500 étudiants en tout sur la ville. Donc on a été un petit peu aux quatre coins de la France pour faire nos études, et tout le monde nous faisait comprendre que ça servait à rien de revenir dans les Ardennes, que les Ardennes étaient une terre sinistrée avec un taux de chômage énorme, une démographie en baisse, et on était plus quand même amoureux de notre territoire, et donc on avait envie de monter un événement d'envergure après cette phase de vouloir organiser nos petits concerts qu'on a au final jamais fait pour le coup. On s'est dit, on va monter un événement d'envergure qui va pouvoir dynamiser un peu l'image et la notoriété de notre territoire qui malheureusement bénéficie d'une très mauvaise image, alors que il est loin d'être aussi catastrophique que ce qu'on peut le dire. Donc ça nous intéressait, voilà, à la fois de faire venir des gens, à la fois de mieux communiquer sur notre territoire, d'y générer des retombées économiques locales, et puis voilà, d'y implanter un événement culturel, c'était aussi un sacré argument.
Alors, qu'est-ce que les élus disent, enfin, c'est aussi un outil de marketing territorial, ce genre de démarche, d'événement?
Oui, alors d'autant plus le nôtre, puisque c'est vraiment la fibre du festival, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'équipe est composée de deux types de personnalités, hein, même si certains, comme je le suis moi, jouent sur les deux. Certains sont bénévoles dans le festival parce que c'est un festival local, parce que c'est un festival qui croit au développement local et à son territoire, et puis d'autres le sont parce que c'est un festival de rock, et que comme aujourd'hui beaucoup d'autres festivals de rock, c'est toujours très agréable de pouvoir bosser sur ce genre d'événement. Et donc quand je parle de développement local, c'est absolument partout, c'est-à-dire qu'on fait très attention à notre programmation. Il y a une partie qui est réservée à des artistes locaux qui normalement n'auraient pas la possibilité de jouer sur un aussi gros événement, et on fait aussi très attention à la provenance de tous nos partenariats, de tous nos prestataires, de tout ce qu'on boit, de tout ce qu'on mange sur le festival. Le Cabaret Vert, c'est un événement où on mange bien, où on boit bien, où on vit bien. On n'est pas des révolutionnaires, on n'est pas des moralisateurs, mais après, je pense qu'on peut tout simplement, sans que ça soit très contraignant, proposer des choses assez pragmatiques qui conviennent pour autant à tout le monde.
On va reparler après du développement économique et du rapport à la défense de l'environnement, mais avant ça, vous avez parlé de développement local. Alors comment est-ce que vous essayez d'impliquer les gens localement, donc bénévoles, mais aussi je sais pas, les associations, les commerçants locaux qui sont peut-être associés aussi au festival?
Alors c'est une question qui est super large. Déjà, on est en plein centre-ville, donc les commerçants locaux, c'est assez facile de les mettre dans le coup, puisqu'ils bénéficient directement de ces dizaines de milliers de personnes qui viennent en plein centre-ville pour quelques jours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. D'un point de vue tourisme, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les gamins qui sont sur le... Enfin, le public qui est sur le festival, qui dort au camping, on a un camping qui fait quasiment 15 000 personnes. Bon, c'est des gens qui, le matin, étant en plein centre-ville, vont se balader, vont prendre le petit-déj dans un café, ou vont vont au resto, vont dans les différentes boutiques de la ville. Le festival est quasiment intégralement généré par des bénévoles. Moi-même, qui suis directeur du festival depuis la première édition, je ne suis salarié que depuis un an. Et on a vraiment, du début à la fin du festival, hein, du montage au démontage, on est à faire quasiment qu'à des bénévoles. Donc l'impact, l'implication locale elle est de la population est assez énorme, hein. Il y a 1 400 bénévoles sur le festival. On en refuse plusieurs centaines par édition. Donc ça se passe très très bien de ce côté-là. Ça c'est sûr que c'est une très très bonne chose pour nous. Et puis il y a 250 partenaires autour du festival, toutes les collectivités territoriales. On a vraiment un réseau de décideurs politiques et économiques qui sont vraiment derrière le festival, qui nous poussent d'édition en édition à la fois à progresser et puis voilà, qui tout simplement nous soutiennent et nous donnent les moyens d'exister.
Cabaret Vert, c'est pas que de la musique et j'ai l'impression que la programmation autour de la musique s'étoffe d'année en année.
Oui, tout à fait. En fait, on veut pas être quelque part esclave de quelques têtes d'affiches internationales qui vont tourner au moment du festival. On a créé le principe même du cabaret vert pour le public. On a basé l'éthique du festival autour du confort, de la qualité d'accueil. C'est-à-dire que on cherche avant tout que les gens qui sont chez nous viennent au cabaret vert et viennent pas pour tel ou tel artiste. Alors bien entendu, le jour où il y aura plus de ces grands noms-là, le festival ne pourra plus exister, n'aura plus la même affluence, hein. On est très très content de travailler dans le milieu de la musique, mais je pense que c'est bien de temps en temps pour tout le monde d'avoir une petite bouffée d'oxygène entre des concerts. Quand on a 30-40 heures de musique dans les oreilles, je pense que c'est toujours bien de pouvoir faire une petite pause. Et puis c'est pas parce qu'on est sur un événement, d'autant plus sur un gros événement, qu'on doit mal manger, mal boire, mal vivre l'événement entre guillemets au-delà des concerts. Donc je pense que c'est très très important, vu le nombre d'heures d'ouverture qu'on a, hein, sur 4 jours, c'est de proposer aux gens un moment qui pourra leur faire psychologiquement, qui pourra leur faire du bien, où les gens se sentiront bien. Je pense que c'est important. On invite des gens chez nous. C'est comme si je vous invitais, en exagérant, dans mon salon. Je veux faire en sorte que vous vous sentiez bien et que vous ayez envie de revenir.
Alors, il y a quoi de l'art de rue, de la BD, du cinéma, c'est ça ?
C'est ça. Donc on a un très très gros espace art de rue qui va vraiment se développer cette année. On a un festival de bande dessinée au sein même du festival de rock. On a effectivement un point court-métrage qui doit passer à peu près 300 dans un chapiteau qui a été aménagé exprès par une école de design. Il y a 300 courts-métrages à peu près qui doivent passer. On a un très gros village associatif qui permet aussi, encore une fois, l'implication de la population locale. Donc c'est des choses un petit peu qu'on propose à droite ou à gauche. Et puis on a réfléchi pareil tous nos espaces de restauration et de boissons. On a quelques endroits qui sont vraiment là pour à proximité des scènes, pour donner de manière rapide ce que le public souhaite, mais on a également des services qui sont beaucoup plus reculés, dans des endroits beaucoup plus reposés. On a presque des festivals dans le festival qui peuvent se faire. Je pense notamment à l'endroit où se situe la troisième scène, qui est le Temps des Cerises. En fait, on a imaginé ça vraiment comme entre le café-concert et le club, un espace pour 500, 1000 personnes, où il n'y a que des bières locales, où il y a une petite scène avec des artistes qui jouent un peu en permanence. Et on est vraiment dans un univers dans l'univers, quelque part. C'est vraiment, je pense que les gens, certains, on sait que plusieurs dizaines de personnes passent leur temps dans cet espace et n'en sortent quasiment pas du festival, quoi.
Tuesday.
On est toujours par téléphone avec Julien Sauvage, directeur du festival Le Cabaret Vert. Ça se passe du 21 au 24 août à Charleville-Mézières. Alors on parlait de la petite scène, la scène du Temps des Cerises. Et vous avez parlé aussi des grosses têtes d'affiche, hein, les M, Placebo, Prodigy et autres Kaiser Chiefs. Hein, c'est des noms qu'on retrouve aussi dans pas mal d'autres festivals, qu'on a retrouvé aussi dans pas mal d'autres festivals par le passé. C'est vraiment des noms qu'il faut avoir des grands noms pour faire venir les gens dans un festival.
Malheureusement, effectivement, aujourd'hui, proposer que des artistes de découverte, ça limiterait considérablement l'affluence du public. Donc aujourd'hui, on essaie de travailler en faisant quelque part une alliance de ces gros noms, choisir des noms qui pour autant, c'est pas parce qu'ils sont populaires qu'ils sont forcément mauvais, loin de là. Donc on essaie de faire un choix qui est forcément pas objectif, hein, puisque il est fait par les programmateurs du festival. Mais en tout cas, on essaie de proposer des groupes déjà qui auront quelque chose à montrer sur scène, ça, qui auront une énergie. Donc ces têtes d'affiche pour moi sont inévitables, c'est elles qui généralement font qu'il y ait du public sur un événement, et puis on essaye derrière de profiter de cette affluence de public pour leur proposer des découvertes, des artistes que pour la plupart du temps dont ils n'ont vraiment pas entendu parler, qui sont vraiment entre guillemets peu connus, qui le seront peut-être demain, et qui en sont des petits coups de cœur de la programmation qui permettent à un moment donné, voilà, entre deux gros groupes de pouvoir découvrir quelque chose. Et pour moi, une journée en tout cas pendant laquelle je découvre une chanson ou un artiste que je connaissais pas et qui me plaît beaucoup, généralement la journée pour moi elle est gagnée. J'ai ce petit sourire béat, donc je me dis que je pense que ça doit être pareil pour le public. Je pense qu'on est tous contents de se retrouver face à une bonne surprise.
Alors justement, dans vos coups de cœur à vous, qu'est-ce que vous citeriez alors?
Alors si je devais citer, que je vous dise pas de bêtises, sur le jeudi, je mettrais Royal Blood. J'ai été vraiment assez étonné, on les a vus sur scène, on n'allait pas voir ce groupe-là à la base. On a été vraiment très très impressionné, on s'est retrouvé dans un petit club de 200 places. Et le concert était juste extraordinaire. Donc un batteur et un bassiste, et le bassiste, enfin, fait vraiment énormément de choses avec, enfin, arrive vraiment bien à faire sonner son instrument. Donc et puis c'est assez puissant. Il y a vraiment quelque chose à voir sur scène. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle pas mal. Sur le vendredi, c'est peut-être pas la découverte qui sera la plus étonnante, qui sera la plus belle du festival, mais qui marche très très bien. C'est Marmosets. Un groupe, si ma mémoire est bonne, qui est d'Irlande du Nord, et donc pareil, qui nous avait pas mal étonné à cette époque. On aime beaucoup Findlay on King Can and the Shrine sur le samedi, qui sont vraiment pareil des artistes assez peu connus. Et puis je citerai le dimanche Saint Paul and the Broken Bones, Black Music, Soul Music. Ça sonne vraiment très très bien. Je pense que ça va être un très très beau concert le dimanche. J'espère un dimanche ensoleillé.
Yeah. Dernière partie de notre entretien avec Julien Sauvage, directeur du festival Le Cabaret Vert à Charleville-Mézières dans les Ardennes, les 21, 22, 23 et 24 août. On parle avec lui d'intermittence, d'économie, d'écologie, mais avant de diversité musicale.
Alors, au niveau de la programmation musicale, vraiment, ça va un peu dans tous les sens. Hein. Rock, rap, musique du monde, Tina Iwen, enfin, ça va un peu dans tous les sens. Il y a quand même une cohérence dans la programmation pour vous ?
Alors, on pense, nous, en tout cas, qu'il y a une cohérence et c'est ce qu'on essaye de faire. On a d'ailleurs des groupes qui... Je pense que c'est surtout une cohérence au niveau des horaires. Hein, c'est-à-dire que je pense que n'importe quelle musique, enfin un groupe ne touche pas de la même manière en fonction de l'heure à laquelle il est présenté, dans quelle ambiance il peut être présenté. On a toujours voulu être éclectique. On a un festival assez populaire. On a un festival qui veut dynamiser, fédérer son territoire. Donc c'est pour ça qu'on joue un petit peu sur tous les styles. Et puis à un moment donné, je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'un groupe est rock ou qu'un groupe est électro ou qu'un groupe est hip-hop. Les styles se marient tellement que c'est même des fois difficile de savoir de quel style dépend tel ou tel groupe. Donc au final, on joue dans ce registre qui nous plaît plutôt bien. Et moi personnellement, j'écoute aussi bien du hip-hop que du métal, que du rock, que de l'électro. Je suis capable vraiment d'avoir passer de très très bons moments. Je pense que tout dépend après de la qualité artistique de l'artiste ou du groupe, et puis de l'énergie qu'il peut développer sur scène.
Alors, le Cabaret Vert, c'est un éco-festival. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ?
Alors, tout simplement, un festival qui veut essayer de se développer proprement, sans faire de mauvais jeux de mots, et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sphère du développement durable, pour moi, elle comprend trois choses. Elle comprend, bien entendu, l'environnement. C'est ce qui saute aux yeux. Aujourd'hui, peut-être de manière un petit peu prétentieuse, je vous dirais qu'on est un des festivals les plus développés en France en matière environnementale. J'entends par là dans les... peut-être 20, 30, 50 plus gros festivals, hein, parce que bien entendu, plus le festival est petit et plus c'est facile de faire de l'environnement. On arrive effectivement des fois, ça devient très très compliqué. Je prends un exemple tout bête de faire 10 tonnes de frites bio à la main. Ça devient quand même assez compliqué pour nous, par exemple. Donc on fait très très attention, on a une grosse politique de ce point de vue-là. Je citerai, je pense que c'est un des exemples les plus originaux qui soit mis en place chez nous, c'est nous avons notre propre centre de tri, c'est-à-dire qu'on a une équipe 20 sur 24 qui éventre les sacs poubelles à la main et qui retrie tout dans des grosses bennes derrière lui. Alors à la sphère environnementale, je rajouterais la sphère sociale, c'est-à-dire que il faut être un peu conscient du territoire sur lequel on vit. Je pense que c'est important à un moment donné qu'un événement de cette importance-là puisse avoir un effet positif sur le territoire et sur sa population. Donc c'est pour ça qu'on fait on travaille avant tout sur le bénévolat, des gens qui viennent gratuitement travailler pour le festival. Donc on le disait tout à l'heure, ils sont 1400. Et puis le fait que le festival soit accessible dans une certaine mesure, bien entendu, aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc c'est quelque chose pour nous, en tout cas, rester proche de la population et que tout le monde puisse y trouver son intérêt, c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis le dernier point, et c'est avant tout pour ça que le festival avait été fait à l'origine, au-delà du fait d'améliorer cette image du territoire, c'était d'y générer des retombées économiques. Et donc ça, pour moi, c'est du développement durable, le fait de travailler quasiment exclusivement avec des producteurs locaux, des producteurs régionaux, pour qu'il y ait des circuits de transport qui soient très réduits, hein, ce qu'on appelle les circuits de transport courts, et puis des retombées économiques qui soient immédiates et effectives pour le territoire. Aujourd'hui, on sait, on a un des rares festivals qui a bénéficié d'une étude de retombées économiques. D'ailleurs, le ministre du budget de l'époque, en 2013, Bernard Cazeneuve, était venu sur le festival à ce sujet. L'étude de retombées économiques chiffre à 14 euros de retombées économiques engendrées par le festival pour 1 euro de fonds publics investis. Donc c'est quelque chose dont on est très très fier, d'autant plus en provenant du bénévolat.
C'est aussi, vous me disiez avant de commencer cet entretien, le seul festival à ne pas bosser avec Heineken et Coca-Cola dans les gros festivals en France.
Ouais, c'est un petit peu... alors c'est pas forcément une réaction contre Cronenbourg, contre Heineken ou contre telle ou telle grande brasserie. C'est tout simplement que c'est des gens qui sont pas du tout implantés sur le territoire. Donc faire venir les produits demanderait beaucoup d'énergie, beaucoup de carburant, beaucoup de moyens de locomotion. Les retombées économiques, ce serait pas local. Et puis après, on pense, nous, personnellement, pour certaines de ces brasseries, c'est pas le cas de toutes, qu'on peut proposer des produits de nettement meilleure qualité pour le public. Et je le disais en préambule, bulle. Le cabaret vert, pour la partie publique, c'est toujours dit, bah voilà, faut qu'on accueille les gens comme on les accueillerait chez nous, avec un minimum de confort et de qualité d'accueil. Donc aujourd'hui, je pense qu'on préfère tous boire une très bonne bière ou un plat fait maison, plutôt que quelque chose de surgelé qui a été préparé en usine. Donc c'est quelque part juste ou tout simplement du pragmatisme de se dire, bon, on va essayer de proposer un maximum de choses qualitatives, y compris dans la restauration.
Un dernier mot avec vous, Julien Sauvage, si vous voulez bien. C'est aussi un festival, puisqu'on parlait de démarche sociale, qui affiche sa solidarité avec les intermittents du spectacle.
Alors voilà, on en parlait tout à l'heure. C'est un bon exemple. Alors la solidarité, elle est au final assez simple. Hein. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on parle tous de ce problème de l'intermittence. Bon, ben aujourd'hui, hein, c'est très bête de dire ça, mais au final, ça résume bien le problème. Il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de spectacle sans les métiers du spectacle, sans les intermittents. Il faut savoir que derrière tout spectacle, la plupart du temps, il y a toujours des intermittents qui sont présents. Cette réforme, forcément, va toucher les employeurs que nous sommes. Donc là, quelque part, d'un point de vue très égoïste, bien entendu, on prend parti. Mais au-delà même de ce sujet, ce qui nous embête le plus, c'est la manière dont le gouvernement a amené la réforme. Il y a eu quelques phases de négociations, mais au final, qui ont peu abouti. Il y a beaucoup de représentants des intermittents qui ont fait des propositions économiquement viables. En fait, on est avant même de parler du fond, et on pourrait bien entendu parler du fond, hein, mais déjà la forme, la manière dont a été conduite la réforme ne nous correspond aucunement, et on est nous-mêmes un festival assez engagé, donc on peut pas se permettre, sans être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des révolutionnaires, on peut pas se permettre en tout cas de ne pas prendre position dans cette situation. La France, on parle toujours de la France comme l'exception culturelle française. On a la chance d'être le seul pays au monde à bénéficier d'un statut particulier pour la culture. Et je pense que c'est juste extraordinaire pour la France. La France a toujours rayonné au fur et à mesure des siècles, entre autres par la culture. Et donc on a peur qu'à un moment donné, il y a un terme à cette situation, ou en tout cas que ça devienne beaucoup plus compliqué. Je pense, comme toujours, malheureusement, dans la réforme qui est proposée, c'est les petits, les intermittents qui bossent peu, qui débutent, qui vont avoir beaucoup de mal. Hein. On sait très bien que dans certains métiers de l'intermittence, et surtout pour ceux qui ont un réseau, du boulot, il y en aura toujours. Hein. C'est comment faire. Et puis, il faut quand même, également, je parlais souvent des métiers, donc mes métiers techniques, mais il faut quand même expliquer aussi un peu au public, parce que j'ai l'impression que la population n'est pas vraiment au courant des détails. Il y a eu, je pense, beaucoup de mauvaise communication sur le sujet. Mais aujourd'hui, quand une pièce de spectacle, une pièce de théâtre, un artiste se retrouve sur scène, il est payé effectivement au moment où il joue son spectacle. Sauf qu'avant de jouer un spectacle, il faut l'avoir créé. Et aujourd'hui, l'intermittence permet en tout cas cette phase de création rémunérée pour l'artiste.
Julien Sauvage, directeur du festival Le Cabaret Vert à Charleville-Mézières dans les Ardennes, les 21, 22, 23 et 24 août. C'est la 10e édition cette année. Elle affiche côté musique notamment M, Placebo de Prodigy, Diane Vort, Metronomy, Joey Badass, Coolboy Q, Flume, Editors, Casser Flotter, King Can and the Shrines, les Cool Kids, Murkage, Kaiser Chiefs, Tina Riwen ou encore Jaguar Ma. Toutes les infos cabaretvert.com. Info 30, c'est fini pour aujourd'hui. Alors si tout se passe bien, ce soir dans l'émission Crac l'été en direct à 18h30 sur Radio PFM, on vous fera justement gagner des passes pour le Cabaret Vert.
que valeur de bord. Le dunia de Halloween. Le dunia.
Yeah.